9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Johan Sfar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du Chat du Rabbin, de Petit Vampire et d'une centaine d'autres albums, sans compter les romans. Le dernier roman, c'est Et Dieu riait beaucoup, chez Albin Michel. Mais là, j'avais envie de vous parler de votre nouvelle bande dessinée qui vient de paraître chez Sonatine, intitulée Riviera. C'est l'histoire d'un vieux voyou qui revient à Nice des années après s'être rangé. J'ai l'impression que vous aussi, vous revenez à Nice, la ville où vous êtes né depuis quelques années. C'était déjà le cas dans La Synagogue, votre album précédent, qui racontait votre adolescence.
C'est vrai, La Synagogue, c'était beaucoup de travail et c'est des vrais souvenirs. Là, j'ai voulu me détendre, donc j'ai fait une fiction en noir et blanc sur la Côte d'Azur.
Néanmoins, c'est l'appel de la Côte d'Azur, c'est l'appel de Nice qui se fait sentir.
Oui, ça me manque, ça fait trop longtemps que j'y suis pas, donc si je fais un livre sur Nice, on va m'inviter à Nice, ça va être l'occasion d'y aller, parce que j'ai plus de pied-à-terre là-bas, donc il faut bien que je fasse des livres.
Pourquoi vous avez voulu fuir Nice autrefois ?
Ah, parce que j'étais trop dedans, c'était écrasant à tous les niveaux et aujourd'hui ça me manque. Je crois que les relations abusives, c'est comme ça, il y a un moment où ça vous manque.
Mais pourquoi est-ce qu'on est plus à Nice qu'ailleurs ?
Je sais pas, c'est une ville étouffante, enfin pour moi en tout cas, en mémoire, en souvenir, en relation, tout y est politique, tout y est tendu, en tout cas dans le vécu que j'ai eu, et ça me manque. Il y a une promiscuité niçoise qui m'a beaucoup manqué.
Nice, c'est une ville avec une mythologie assez puissante, c'est comme Cannes, hein, c'est l'emblème de la Côte d'Azur. Est-ce qu'elle ressemble à l'idée qu'on s'en fait, ou plutôt à l'idée que s'en font ceux qui n'y vivent pas ?
Ça, je ne sais pas quelle idée ils s'en font, parce que Marseille fait écran. Il faut s'imaginer une espèce de principauté de Monaco, mais à 15 km. C'est une ville qui se vit comme irrédentiste, indépendante. Et donc, dès qu'on dit ça, c'est le terreau de toutes les sociétés souterraines qu'on pourra imaginer. La spécificité, c'est que les gens déjeunent ensemble. Moi, je me rappelle l'ancien bâtonnier de Nice qui dirigeait l'Action française à Nice, qui déjeunait avec mon père et qui lui disait « Sfar, quel dommage que vous soyez israélite, vous auriez été un gendre idéal. » On ne peut pas imaginer ça à Paris.
Sans doute pas. Votre père était avocat. Hein.
Oui, oui. Et puis pas vraiment de ce bord-là.
Justement, votre héros est un vieux voyou, niçois, juif séfarade, qui a maintenant un restaurant à Paris. Vous semblez en avoir connu beaucoup comme lui, grâce à votre père ?
Alors, oui, parce qu'il a été avocat longtemps et il a défendu tout le monde. Mais en l'occurrence, ce personnage vient d'un ami qui est très honnête, qui s'appelle Paul Boulakia, qui est le guitariste du groupe Cookie Dingler et qui est un juif maghrébin élégant. Il est beau comme une momie. Il a des costumes en soie sauvage, il joue au poker, il fume tout le temps, il joue de l'argent même avec les gamins. Enfin, vraiment, je l'adore. Et j'ai fait un portrait comme j'aurais fait le portrait d'une femme que j'aime, quoi.
Sans doute, là. Alors là, il s'agit de Paul Boulakia, bon, pas un voyou.
Mais je vous assure qu'il est honnête.
Voilà, mais on voit bien, et vous le laissez entendre, que vous en avez connu des voyous. Quelle est leur caractéristique ? C'est quoi les vieux voyous du milieu juif ?
Moi, il y a une phrase que j'ai adorée dans la dernière série de Stallone, Tulsa King. Quelqu'un lui dit « Mais vous êtes de la mafia » et il répond « There's no such thing ». Ça n'existe pas. Je crois qu'il y a l'idée, dans les bas-fonds, de populations qui, à raison ou pas, se sont senties fragiles ou peu protégées par le pays où ils se trouvent et qui ont eu recours à des expédients. Et on voit bien que dans la mythologie new-yorkaise, il y a ça. Je crois que dans le sud de l'Europe également.
On l'avait vu dans un film où Roger Hanin lui-même jouait Raymond Béthune, si je me souviens bien. Oui. C'était l'époque des frères Zemmour.
Oui.
Quand le palace a été inauguré à Paris, rue du Faubourg-Montmartre, pour la première fois, le tout Paris s'est aventuré sur ce qui était considéré à l'époque comme le territoire des frères Zemmour.
Oui, ça c'est une mythologie algérienne, puisque les Zemmour venaient de Sétif, qui est la même ville que mon père.
Et que votre personnage.
Oui, et dans laquelle tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, mais enfin, il y a un niveau à partir duquel on ne se fréquente pas. Ce qui est intéressant à Nice, c'est que ça reste tout de même une ville périphérique du crime organisé. Ce n'est pas Marseille, ce n'est pas Naples. Tout de même, c'est un territoire sur lequel les gens ont toujours voulu avoir la main. Donc il y a toujours eu des Corses, il y a toujours eu des Calabrais, il y a toujours eu des Italiens dans la région. Malgré tout, c'est jamais le centre du truc, c'est jamais là que ça se passe. Donc il y a un aspect relativement tranquille tout de même. Quand vous me parlez d'avoir vu du crime organisé quand j'étais enfant, franchement, si j'ai vu des raquettes, mais j'ai assisté à des raquettes, ça consistait à être un monsieur que je connaissais, qui allait dans un café que je connaissais, qui parlait avec un autre monsieur que je connaissais et qui partait avec une valise que je connaissais. Je précise que mon père y était pour rien. Mais on assistait à des choses comme ça. Si un jour on a été attaqué à l'école quand j'étais en classe de 6e, et il y a le papa d'un de nos amis qui est arrivé et qui a fini nos agresseurs à coups de chaîne, et c'était un monsieur qui était ni très grand ni très fort. Je précise qu'il n'était pas israélite, mais s'il y avait ce vécu. Et la manière de le dire, c'était « Ah bah les enfants peuvent sortir tard le soir, il leur arrivera rien ». Ça oui, ça y a eu.
Quand il revient à Nice, votre héros, ça se passe pendant l'épidémie de Covid, il ne reconnaît plus rien. Les vieux bars du milieu ont complètement disparu. Le Mississippi, le Coudou.
Le Mississippi, c'est pas un bar du milieu. Le Mississippi, c'était comme la Coupole à Paris, un bar de gigolo. Et ça, pour être tout à fait honnête, il m'est arrivé de le fréquenter. C'était encore en activité quand j'avais 17-18 ans. C'est un endroit où allaient les messieurs qui sortaient de prison quand ils souhaitaient rendre service à des dames qui n'en sortaient pas.
Qui était un peu plus âgé.
Ah oui, oui.
C'est ce qui vous attirait là-bas?
Ah ben moi, je trouvais ça fascinant. C'était très intéressant.
Et il s'étonne aussi qu'on puisse boire un verre sur la plage. Il trouve ça désastreux parce que c'est pas confortable. Ça se faisait pas, vous
Si, mais alors c'était sur des matelas ou dans une vraie plage. Tandis qu'aujourd'hui, on assied les pauvres Italiens sur une chaise comme s'ils étaient au café de Flore. Ils sont sur des galets inconfortables et ils Instagramment leur cocktail qui est dans un verre en plastique. Enfin, c'est terrible.
Oui, bon, mais c'est l'époque qui veut ça.
Mais oui.
C'est pas Nice.
Mais
vous
oui.
avez grandi, vous, dans Nice à l'époque où le maire s'appelait Jacques Médecin. Est-ce que c'était très différent du Nice d'aujourd'hui?
Non. Non, il y a, enfin si, maintenant les choses se font sans doute de manière beaucoup plus discrète. Le crime des médecins, des boucherons et des mecs de cette époque-là, c'était la décentralisation. Soudain, ils ont eu des budgets pas possibles et ils en ont fait ce qu'on sait. Simplement aujourd'hui, quand on s'imagine que ça n'existe plus, il faut bien voir que rassembler, ils appellent ça des mégalopoles maintenant, c'est-à-dire que maintenant une grande ville de la région, par exemple Nice, gère le budget d'une dizaine de villes qui sont autour. J'imagine qu'il se passe à peu près les mêmes choses que depuis toujours, sauf qu'on s'est civilisé, donc ça se voit moins. Moi, ce qui m'amuse, c'est les moments où la truanderie se voit vraiment. C'est ça qui me donne envie de raconter.
Et à quel moment est-ce qu'elle se voit vraiment, la truanderie?
Ah ben, quand il y a un faux pas, ou quand ça ne marche plus, ou quand... Moi, c'est ça. Par exemple, il y a une histoire. La plupart des choses que je raconte sont vraies. Il y en a une qui m'amuse beaucoup, c'est mon personnage doit amener de l'argent liquide quelque part. Et comme le récipiendaire n'est pas là, le type qui est derrière le guichet exige un reçu et une photocopie de son passeport. Mais ça, c'est une histoire vraie. Genre, je ne dirais pas qui, mais un gars qui devait amener du liquide, il le fait pour rendre service. Et quand on lui demande son passeport, les bras lui en tombent. Mais l'autre n'en démord pas, il veut un passeport et un récépissé. Donc, c'est les micro-événements qui m'amusent.
La synagogue, en revanche, de Nice, est toujours gardée dans cet album. Autrefois, c'est vous qui en étiez le vigile. C'est ce que vous aviez raconté
on
dans votre
nombreux.
Album, La synagogue. Ça n'a pas changé, donc.
Non, ça existe toujours. Je ne sais pas si c'est formateur pour la jeunesse d'attendre devant une synagogue. Ça existe toujours. J'ai rencontré des jeunes gens qui font encore ça aujourd'hui. Alors j'ai mis ça dans le récit, je l'ai mis de manière un peu plus rigolote. Mais oui, c'est une réalité. Malheureusement, il n'y a plus que les juifs. Maintenant, toutes les religions ont besoin de gardiens devant l'entrée du temple parce que les temples sont devenus des cibles.
Mais ils ont l'impression que la menace est partout, vos gardiens d'aujourd'hui, que tout le monde veut, entre guillemets, casser du juif. Il ne faut quand même pas exagérer.
Non, je crois qu'il faut faire la différence entre les menaces majeures et ce qu'on va appeler des incivilités. Mais oui, dans des lieux juifs, les agressions, c'est fréquent. Enfin, quand Mohamed Merah a tué des gamins, deux semaines après, la plupart des cimetières juifs de Nice ont subi des tags et des déprédations, celui où est enterrée ma mère en particulier. Il y a malheureusement dénoncé des actes d'antisémitisme, ça crée des vocations en ce moment. Donc, s'il est vrai qu'il y a 20 ans, les juifs avaient tendance à dénoncer le plus possible pour qu'on s'intéresse à leur cas, si j'allais dire. Aujourd'hui, il y a presque une volonté de ne pas trop dire parce que ça va donner envie. Moi, les choses auxquelles j'ai assisté quand je gardais la synagogue de Nice, oui, c'était des groupes de skinheads qui venaient brûler un pneu devant la synagogue ou qui venaient intimider des jeunes juifs quand ils étaient seuls. Alors ça ne va pas jusqu'au fichier de police, j'imagine, mais ça suffit à pourrir l'ambiance.
Votre vieux voyou était guitariste, hein, maintenant oui. qu'on sait que c'est Paul Boulaquet qui l'a inspiré, on comprend mieux. Il était autrefois dans un groupe de rock et il se sent obligé de rappeler que c'est une musique inventée par les Noirs, offerte blanc par Elvis Presley, qui chantait Hound Dog sans comprendre les paroles, d'après ce que vous dites.
Bah oui, parce que Hound Dog c'est un cunnilingus et manifestement si Elvis l'avait su, il ne l'aurait pas chanté de cette façon-là.
C'était une chanson de
Big Mama Thornton.
Voilà, exactement, et dont la version est très très célèbre également. Voilà, bah écoutez, tout est dit, merci.
Donc c'est un livre éducatif.
C'est un livre éducatif. Il s'intitule Riviera et c'est sorti chez Sonatine. Merci d'être venu sur
merci
Europe
1. Beaucoup. Merci.
Et c'est le moment justement d'écouter un disque. C'est pas tout à fait du rock, mais c'est considéré comme du rock. C'est Life on Mars de David Bowie.